Chapitre 15. Poudre jaune, goutte d'or. Les Yu, Lunella et les derniers résistants, après avoir quitté Utopia Island, avaient organisé leur nouveau camp dans le refuge 14, une cachette de secours repérée plusieurs mois auparavant en cas d'attaque de la citadelle dodécagonale par l'armée impériale. La planque était froide, humide, sombre, mais semblait sûre. Ils avaient posé quelques matelas, couvertures et stocks de nourriture sous la gare Saint-Lazare, dans les couloirs du métro. Plus personne ne surveillait les gares, et encore moins les longs tunnels creusés toujours plus profonds dans le monde d'avant, pour permettre à des millions de gens de se déplacer sous terre. Liu alluma sa lampe. Un coup long, deux coups brefs, trois coups longs. C'était le signal. Au bout du souterrain, une autre lampe s'alluma six fois. Il entendit des pas lourds, puis sentit l'odeur de son invité avant même d'apercevoir son visage. Le meilleur des signes de reconnaissance, aucun doute, c'était lui. Rick. Rick appartenait à la tribu des empesteurs, des compagnons fromageurs ayant grandi dans une bergerie au milieu des chèvres, sans jamais parvenir à se débarrasser des remugles pestilentiels qui leur collaient au corps. L'empesteur possédait une autre particularité. D'étranges sourcils et cheveux blancs, une peau très pâle, laiteuse et d'étonnants yeux clairs, sans pigments ni éclats. Liu était capable de mettre un nom sur cette maladie génétique, l'albinisme. Mais Rick avait souffert de cette différence depuis son enfance et avait dû se battre plus qu'un autre pour survivre. Il avait été l'un des premiers enfants des ethnies nouvelles, comme on les appelait encore 2 ans plus tôt, à devenir un promu. Il avait obtenu des notes records à son CAPE et, lors du siège du château de Vincennes contre les partisans de Mordelia, c'est à lui qu'Ogénor avait confié le commandement de l'une des 3 armées, celle rassemblant les volontaires des ethnies nouvelles. Le grand cerf lui avait offert une place importante dans son 3e empire. Il lui avait proposé de devenir consul chargé de la supervision des corporations. Il lui avait fait miroiter le titre de commandeur des bois d'honneur. En vain. Dès que le code impérial avait été édicté, Rick avait repris sa liberté. Avant de disparaître dans la clandestinité, il avait fait savoir, lors d'un long entretien avec Constel dans la feuille de chou, que jamais il ne tolérerait une société de caste où ses frères et sœurs des corporations travailleraient dans la misère et la faim pour entretenir une élite privilégiée. Depuis, Rick était devenu une légende, un fantôme que l'Empire n'avait jamais réussi à attraper, le Capitaine Blanc. C'est ainsi que, dans les corporations, les compagnons l'appelaient secrètement, nourrissant l'espoir silencieux qu'ils réunissent autour de lui une armée de rebelles qui bientôt renverserait le 3e Empire.
« Seuls à jamais !»
lança Rick dans le silence du tunnel.
« Plus jamais seul !»
répondit Liu. Le Capitaine Blanc était grand, massif et paradoxalement, quand on le côtoyait, sa forte odeur corporelle renforçait son aura, telle celle d'un fauve au parfum fort, dérangeant, mais enivrant. Rick prit le temps d'observer la cage des résistants, puis s'attarda sur les affiches collées au mur du métro, témoignages à demi effacés du monde d'avant. Une image plus haute qu'eux annonçait la sortie de Star Wars 12. Rick resta un moment subjugué par les vaisseaux spatiaux et les planètes inconnues sous le ciel étoilé.
J'aurais aimé connaître ça, dit-il. Le théâtre, les concerts, le cinéma.
Liu ne répondit pas. Depuis son enfance, à travers les vidéos du château, il avait visionné des centaines de films, écouté pendant des heures les compositeurs les plus importants du monde d'avant. Il sentait dans sa poche le poids du sublimateur.
Vous êtes combien ?
Finit par demander le Capitaine Blanc.
6. Avoua le savant. 6 de plus si je compte le commando du tipi.
Rick resta un moment pensif devant une étoile noire dans le ciel de papier.
C'est presque autant que nous. Mon armée de rebelles se limite à moins de 20 combattants. Des hommes et des femmes sans armes, sans expérience du combat. et même quelques prémats fugitifs incapables de se battre.
Liu afficha un sourire triste.
C'est peu face à l'armée impériale. Tout le monde a peur dans les corporations ou même chez les anciens du Tipi. Noam, Mook, Camélian, Nadir. Même chose chez ceux qu'on appelle désormais les SSS d'ailleurs. La plupart ne sont pas méchants, mais ils sont terrifiés à l'idée d'être dénoncés et punis. Mon vieil ami Pastor, les anciennes Lolly Girls, Corentine et Tiffen, les musiciens Cladrix et Abou.
Devant l'attitude sceptique de Rick, le savant préféra abréger la douloureuse liste de ses anciens camarades convertis au Troisième Empire. Pour le capitaine Blanc, les SSS appartenaient tous au même camp, celui des privilégiés qui fermaient les yeux sur les atrocités commises par Ogénor. Comment lui donner tort?
Mais peu importe,
se hâta de poursuivre Liu.
Nous disposons d'une arme.
Le savant prit le temps d'expliquer à Rick tout ce qu'il avait appris depuis une année. Le laboratoire Utopie, les moulins sublimes, la pandorite sous forme de poudre jaune et le sublimateur.
Tant qu'Ogénor ne l'aura pas récupéré, conclut Liu, nous disposerons d'un avantage sur lui.
Quel avantage, grimaça Rick. C'est le présent qui compte, pas le passé. Pendant que vous cherchez à émettre des théories sur ce laboratoire Utopie, mes compagnons meurent de faim, se tuent au travail, se font assassiner dès qu'ils prétendent vouloir apprendre à lire, compter, s'amuser ou même aimer.
Tout est lié, affirma Liu. J'en suis persuadé.
Peut-être, mais neutraliser ces moulins sublimes n'aidera pas mon peuple à se révolter, ni à lutter.
Ils discutèrent encore un long moment, avant que Liu propose à Rick de rejoindre Lunella, Valère, Osman et les autres, et de passer la nuit avec eux, à l'abri. Quand il se réveilla, Liu regarda sa montre. Il était 3 heures du matin. Il n'avait dormi qu'une heure. Il ne cessait de repenser à sa conversation avec Rick, prenant conscience d'une évidence. Seuls les savants, Lunella, Valère, Osman et lui, comprenaient le danger que représentait un nouveau nuage de Pandorium, et par conséquent, l'urgence qu'il y avait à détruire les moulins sublimes. Il se leva en silence. Il sentait toujours le poids du sublimateur dans sa poche. La veille encore, avec Valère et Osman, ils avaient tenté de lister avec le plus de précision possible les localisations potentielles des moulins mortels. Mais entre la théorie d'une carte et la réalité, mieux valait se rendre sur place et chercher. Et pour échapper à l'armée impériale, il n'y avait qu'une solution. Explorer les rues de Paris pendant la nuit. Liu cherchait son manteau à tâtons quand il sentit une main caresser son poignet. Lunella s'était réveillée.
« Je viens avec toi, » chuchota-t-elle.
Ils longèrent les rails pour s'éloigner de l'étroit souterrain où les résistants dormaient. Quand ils furent suffisamment à l'écart, Liu alluma sa lampe et éclaira la carte. Ils détaillèrent la 50aine de cercles rouges qu'Osman avait tracés.
Oh, « On commence par lequel ?»
interrogea le petit savant. Liu avait toujours eu confiance en l'intuition de Lunella. Plus encore depuis que son frère jumeau Solario était mort, 4 ans plus tôt. Lunella semblait dotée d'un 6e sens. Elle ressentait souvent le danger avant eux, ou captait des informations qui leur étaient inaccessibles. Elle observa un instant la carte et pointa son doigt sans hésiter.
« Celui-ci !»
Liu se pencha. Lunella avait désigné un site du nord de Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or, une petite colline longtemps baptisée « Butte des 5 moulins ».
« Pourquoi ?»«
Je ne sais pas. Je sens juste qu'il faut commencer par celui-là. »
Moins d'une heure plus tard, Liu et Lunella gravissaient la colline de la Goutte d'Or, persuadés de s'être trompés. Le site ne correspondait à rien de ce à quoi ils s'attendaient. Le quartier se résumait à une succession de barres d'immeubles comprenant chacune des centaines de fenêtres. Comment trouver le moulin sublime parmi ces milliers d'appartements? La nuit était fraîche, Liu avait pris soin de se couvrir d'un manteau de marin à capuche qu'il offrit à Lunella.
« Je suis désolée, »
fit-elle en serrant le savant dans ses bras.
J'essaie de me concentrer, mais je ne ressens rien. C'est trop grand.
Tu me pardonnes, répondit Liu, si je demande à une amie de nous aider? Sans en dire davantage, il fouilla dans la poche intérieure du manteau et en sortit une petite cage dans laquelle dormait un vampire miniature poilu. Lunella poussa un cri dans la nuit.
Chut! Les gardes impériaux doivent presque tous être au lit, mais il en reste sûrement quelques-uns pour patrouiller. Elle n'est pas mignonne, ma chauve-souris?
Pourquoi tu te balades avec cette horreur?
Pour lui rendre sa liberté!
Liu attrapa le sublimateur dans sa poche.
Souviens-toi! Les quatre aiguilles de cette boussole indiquent la direction des moulins, parce que la pandorite contient de la magnétite. Mais le sublimateur ne fonctionne que lorsqu'on est à quelques mètres. S'il existe une source magnétique dans ce quartier, il faut utiliser un outil plus puissant pour la repérer.
Un animal magnétoréceptif,
murmura Lunella.
Bien joué.
Tous les deux avaient appris dès leur enfance que certains animaux possédaient la capacité fascinante de se repérer dans l'espace grâce aux champs magnétiques, leur cerveau fonctionnant comme une boussole hyper sophistiquée. Les pigeons voyageurs, bien entendu, mais aussi la plupart des animaux migrateurs ou les prédateurs nocturnes.
« Si un moulin se cache dans le coin, affirma Liu, cette charmante petite boule de poils devrait nous y mener. »
Dès que la cage s'ouvrit, la chauve-souris s'envola. Elle volta quelques instants au-dessus des cheveux de Lunella, puis partit en direction des vitres brisées de l'immeuble le plus proche. Elle s'éleva rapidement à la hauteur du troisième étage et disparut avant même qu'ils aient pu repérer par quelle fenêtre elle était entrée.
« Merde !» pesta Liu. « On va devoir visiter tous les appartements pour la retrouver !»«
Peut-être pas. Suis-moi. »
Lunella avança d'un pas décidé. Elle se dirigea vers l'immeuble sans hésiter. C'était le seul bâtiment dont la façade n'était pas couverte de graffitis. Moins délabré, plus luxueux, ceux qui y résidaient disposaient vraisemblablement de revenus plus importants que les autres habitants du quartier. Ils pénétrèrent dans un grand hall lumineux, passèrent devant des dizaines de boîtes aux lettres vides, délaissèrent l'ascenseur, par quel miracle aurait-il pu encore fonctionner, et s'engagèrent dans l'escalier.
« La chauve-souris est entrée au troisième étage !» souffla Liu.
Lunella ne l'écoutait pas. Elle le devançait, gravissant les marches avec autant de certitude que si elle disposait elle aussi d'un cerveau magnétoréceptif. Parvenue au troisième palier, elle alla directement à gauche, courut quelques mètres dans le couloir et s'arrêta devant la porte 408.
« C'est là ?»
Comment peux-tu en être certaine ? Bafouilla le savant, aussi surpris qu'essoufflé.
Je le sais. C'est tout.
La porte était fermée. Leurs coups d'épaule ne parvinrent pas à l'ébranler. Au bout d'une dizaine de vaines tentatives, Liu se mit à genoux et entreprit de démonter, à l'aide de son canif, le barillet de la serrure. Après quelques minutes, le pêne céda. Liu poussa la porte, mais Lunella retint son bras. Elle lui adressa un ultime sourire et entra.